Jeudi 24 octobre 2019, il est 18h à Niamey. Vous écoutez le studio Kalangu. Le journal vous est présenté par Assoumana China. Les conflits de le bassin du lac Tchad fragilisent la résilience des communautés vivant dans cet espace face aux effets du changement climatique. C'est ce que révèle le résultat d'une étude présentée ce matin à Niamey. Les travaux de l'atelier national d'analyse intégrée des besoins et réponses humanitaires ont pris fin hier à Niamey. La coordinatrice par intérim de OCHA a lancé des appels aux acteurs de différents acteurs. En partie magazine de cette édition, nous parlerons de l'impact de l'insécurité sur l'éducation à Wallam, région de Tel Abyrie. Présentation ce matin à Niamey des résultats de l'étude sur les risques du changement climatique et de la fragilité de la région du lac Tchad. Cette étude, conduite par l'agence Adelphi, a été financée par l'ambassade de l'Allemagne au Niger. Oli Brown, chercheur, évoque quelques résultats de l'étude au micro du studio Kalangu.
Le premier risque, c'est l'impact du conflit dans les dernières 10 ans sur la capacité de la population à être résiliente contre les impacts des changements climatiques. C'est-à-dire que la capacité d'adaptation des communautés est en train d'être fragilisée par les déplacements à grande échelle et les restrictions du mouvement des personnes à cause du conflit et aussi la cohésion sociale amoindrie après des années de violence. Le deuxième risque, c'est la rivalité croissante sur les ressources naturelles parmi les communautés. Avec le grand nombre de personnes déplacées, social access limité aux ressources, la disponibilité et la qualité réduite, on aboutit à une rivalité en matière de ressources naturelles à certains endroits.
Fin hier à Niamey de l'atelier national d'analyse intégrée des besoins et réponses humanitaires organisé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. À l'occasion, la coordinatrice humanitaire par l'intérim, Madame Félicité Tibinda, s'est réjouie des résultats des travaux et a invité les acteurs de différents secteurs à actualiser leurs données pour les intégrer dans le document final.
Je retiens que les discussions ont été franches et courtoises dans un respect mutuel et que les résultats auxquels vous êtes parvenus sont à la hauteur des attentes des populations. Il reste à mettre tout cela en forme afin que nous produisions un document consolidé, de qualité et qui rencontre l'assentiment de tous. Aussi, j'en appelle à la compréhension des chefs d'agence, des chefs des missions des ONG et des directeurs centraux des ministères pour qu'ils facilitent le travail des personnes impliquées dans l'élaboration du document final. Il m'est aussi revenu que plusieurs analyses et des chiffres sont encore à actualiser à cause des données non encore disponibles. Sur ce point, j'invite les secteurs concernés à actualiser dès que possible les données afin de permettre leur prise en compte rapidement avant la finalisation des différents documents.
La Cominac, compagnie minière d'Akouta, qui exploite l'uranium à Arlit au Niger, sera fermée le 31 mars 2021, ce qui impliquera l'arrêt total de la production de l'uranate. L'annonce a été faite hier à Niamey dans un communiqué de presse du conseil d'administration de la Cominac. Selon la même source, le ministère des Mines du Niger a été informé de cette décision et un plan d'accompagnement revu avec les partenaires sociaux sera mis en place pour chaque salarié, incluant des mesures complémentaires au dispositif légal. Le développement des relations économiques, la création des projets de développement équipe, les participants au premier sommet Russie-Afrique en cours à Sochi. Mercredi, lors de la session plénière, Vladimir Poutine a promis que la Russie continuera à aider les pays africains en effaçant leurs dettes, assurant que le montant total dépassait déjà 20 milliards de dollars. Une technique notamment utilisée par la Russie pour mettre le pied en Algérie et en Libye dans les années 2000, effaçant leurs dettes en échange de gigantesques contrats d'armement pour Moscou. Rapporte une dépêche de l'AFP précisant que l'Afrique représente 40% du volume de portefeuille de commandes actuelles. Chaque année, c'est un rappel, le deuxième jeudi du mois d'octobre est célébré la Journée mondiale de la vie. Occasion pour le professeur Hamza Abdou, ophtalmologue et coordonnateur du programme national de la santé oculaire du Niger, de relever que porter des verres correcteurs non prescrits peut être néfaste pour la vie.
La prescription de verres, même nous, on ne le fait pas au hasard. Il faut passer en consultation. Il y a des appareils qui nous donnent à peu près une marge pour dire ce teuil-là, voilà les verres qu'il faut lui mettre pour qu'il voit bien. Et une fois que la personne, parce que parfois les gens ils portent comme ça au hasard, bon, c'est sûr que ça a des impacts parce que si ça ne correspond pas à la prescription, d'abord, ça peut fatiguer les yeux, mais ça peut encore entraîner l'inverse. Au lieu que ça vous améliore, au contraire, ça va vous détériorer la vision parce que vous êtes en train de léser votre organe, en train de pourvoir. Donc, on ne peut pas avoir des verres correcteurs. Des verres simples, oui. Les anti-reflets, moi, je pense que dans notre environnement, ils sont nécessaires. Parce qu'on n'imagine pas ce qu'on a comme rayonnement solaire. Surtout ces derniers temps, avec le changement climatique, tout le monde sent la chaleur qu'il fait. Et nos yeux, ils souffrent. Donc vraiment, moi je conseille aux gens, ceux qui ne sont pas gênés, de porter vraiment des lunettes de soleil pour protéger.
Propos recueillis par Rafika Attaher. Le syndicat national des médecins spécialistes SMES apporte son soutien à la cancérologue-oncologue Dr Issoumou Hadilé, remerciée par l'État du Niger. C'est dans une déclaration publique hier, rendue publique hier, donc, dans laquelle le SMES dit avoir saisi la Halcia afin que toute la lumière soit faite pour les évacuations sanitaires relevées par la cancérologue. Suivant Dr Kwangize Zabirou, secrétaire général du SMES, au micro de nos confrères de la télévision Labari.
Le Niger ne dispose que de deux chirurgiens détenteurs du diplôme d'études spécialisées en chirurgie oncologique appelée chirurgie des cancers, dont Dr Dilé. Vu l'ampleur des événements, le syndicat national des médecins spécialistes a saisi la Halcia pour que toute la lumière soit faite sur les évacuations sanitaires. Nous invitons l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à statuer urgemment sur le cas de ces médecins qui déshonorent la profession. Souvenez-vous qu'en janvier 2019, en prélude à une journée porte ouverte du centre hospitalier régional Poudrière, une de nos collègues qui a osé parler des insuffisances du service des urgences a simplement été remerciée. Le 13 mai 2019, une autre collègue de l'hôpital national Lamordé a été aussi remerciée pour avoir référé un patient à l'hôpital national de Niamey à cause d'une coupure d'électricité sans relais notifié comme motif de référence. Ces cas ne sont que des exemples parmi tant d'autres qui traduisent la gravité de la situation du système sanitaire au Niger.
Réponse du berger à la bergère. Hier toujours, le ministère de la Santé publique a répondu immédiatement au syndicat national des médecins spécialistes de SMES qui soutient Dr Issoumou Hadilé. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Ranaou Abaché.
Certains individus cherchent à récupérer la situation pour leur propagande politique. Et dans la perspective de mieux organiser la prise en charge globale du cancer au Niger, le ministère de la Santé publique a procédé à un regroupement des pôles de prise en charge du cancer. Ainsi, la chirurgie-thérapie du cancer est assurée par les quatre hôpitaux nationaux et la maternité Issa Gazobi. Ces chirurgiens sont répartis comme suit. Hôpital Amirou Boubacar Diallo, 16 chirurgiens. Maternité Issa Gazobi, 17 gynéco-obstétriciens. Hôpital national, 27. Hôpital général de référence, 9. Hôpital national des Indères, 7. Pour dire que la prise en charge du cancer est globale, la chirurgie n'est qu'une composante couplée à la radiothérapie et à la chimiothérapie. C'est ainsi que toutes les activités de chimiothérapie ont été regroupées au Centre national de lutte contre le cancer, qui va bientôt démarrer l'une des composantes essentielles, à savoir la radiothérapie. Et nous sommes aujourd'hui dans les dernières démarches de la mise en place des machines de radiothérapie, sans compter l'envoi de 6 médecins en formation en anatomopathologie, de 8 médecins en oncologie médicale et de 4 médecins en radio-oncologie.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision Ténéré. En début de semaine, les réseaux sociaux ont relayé une affaire d'enlèvement de deux enfants albinos dans le village de Dantiou, région des Andes. Pour l'Association nationale des albinos du Niger, ANAN, il s'agit en fait d'un problème de communication entre les parents de ces enfants, dont le père a unilatéralement décidé de les inscrire dans un centre d'appui aux personnes atteintes d'albinisme à Zander. Les explications de Khadijatou Moumouni, présidente de l'ANAN, au micro de Moussa Hassan.
Le centre qui se trouve à Zander où on a amené les deux enfants, c'est le directeur même qui gérait le centre qui m'a appelé pour m'expliquer. C'est vrai que l'affaire circulait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un problème de communication entre les deux parents. C'était pas un enlèvement parce que les gens parlent d'enlèvement de deux enfants atteints d'albinisme pour but de sacrifice ou autre. En réalité, c'est deux enfants atteints d'albinisme que leur père voulait confier au centre qui reçoit des enfants atteints d'albinisme pour l'éducation et l'encadrement. Il a pris les enfants pour les acheminer au niveau du centre, mais il n'avait pas informé la mère. parce que les parents étaient divorcés et la fille était avec la maman et le garçon avec le père. Ils ont pris la fille avec la maman, mais ne lui ont pas donné la vraie version, comme quoi on va l'amener à Zinder pour qu'elle puisse étudier pendant les 9 mois. 2 jours après, elle n'a plus les nouvelles de sa fille. Et c'est en ce temps qu'on lui a raconté comme quoi les enfants sont au niveau d'un centre pour pouvoir étudier. Elle n'a pas accepté cela. Elle a saisi la juridiction. La justice a tranché. Ils ont donné gain de cause à la mère. Donc, ils ont pris les enfants et puis ils les ont rendus à leur maman. Studio
Kalangu à Gaya, sur la radio Phara 90.3 MHz. À Tessawa, sur la radio Termamoa 97.5 MHz. À Birlinconi, sur la radio Nia 97.5 MHz. À Belleyara, sur la radio Dalol 96 MHz. Studio Kalangu.
Place à présent à la partie magazine de cette édition dans le département de Wallam. S'il y a une question qui mérite qu'on s'y consacre, c'est bien le problème de l'insécurité qui a un impact négatif sur l'éducation des enfants, surtout ceux vivant dans les zones rurales où l'insécurité reste dominante, une situation qui pousse les populations, y compris les enseignants, à fuir vers les centres urbains plus calmes. Les conséquences avec Abdelaziz Hassan, chargé des statistiques à l'inspection Wallam 1, dans un entretien accordé à Balkissa Hamidou.
Dans certaines localités du département de Wallam où l'insécurité est permanente, des familles entières fuient à la recherche de la quiétude. Et là, ce déplacement a des conséquences sur l'éducation des enfants, selon Abdelaziz Hassan, chargé des statistiques à l'inspection primaire Wallam 1.
L'éducation, c'est un domaine qui ne peut évoluer que où il y a la sérénité. Et quand il n'y a pas de sérénité, il va de soi que ça impacte sur le système éducatif. Pour la bonne cause, vers le nord du département, il y a même des écoles qui ont été fermées pour cette insécurité. C'est-à-dire que les enseignants sont réticents à vouloir partir servir là-bas. Les écoles qui font frontière avec le Mali, les écoles de Tingara, Sinigodal, où aujourd'hui, si ce n'est pas par contrainte, personne ne peut se sentir à l'aise d'aller servir dans ces écoles. Il y a aussi la population qui se déplace pour rejoindre les grands centres où il y a plus de quiétude, plus de sécurité. Quand ces parents se déplacent, le plus souvent, ils partent avec leurs enfants, qui sont des élèves. Non seulement il y a les enseignants qui ne sont pas prêts à vouloir aimer aller servir dans ces écoles-là, et de l'autre côté, il y a les parents qui quittent, et quand ils quittent, le plus souvent, ils vont avec leurs enfants. Tout ça, c'est dû à l'insécurité. Et de facto, la fréquentation est très basse, qui conduire à la fermeture complète de ces écoles.
Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre pour empêcher cela?
Il y a des patrouilles mixtes qui sont organisées dans ces zones. Il y a des sensibilisations qui sont menées ça et là, telles que les activités de la PCCN dans ces localités. C'est des mesures multiples.
Et quand ces enfants se déplacent avec leurs parents, on ne les inscrit pas dans les écoles d'endroits où...
Ça dépend des centres d'accueil où ils vont. Dans certaines localités où il y a des écoles, si c'est pas en pleine année scolaire, si c'est en début d'année, le plus souvent, tel que Mangaise par exemple, il y a des enfants qui viennent de certaines localités qui sont inscrits dans nos écoles là pour poursuivre leur scolarité.
Quel appel à l'endroit des populations?
L'appel, c'est d'aider les autorités administratives à gérer ce problème. Et en cas de déplacement aussi, de ne pas laisser les enfants là ne pas pouvoir poursuivre leur cursus universitaire. S'ils arrivent dans des grands de les inscrire, essayer d'apporter l'éducation à ces enfants-là qui sont dans cette situation malheureusement.
C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, vous suivrez le forum du studio Kalangu sur le thème « Non-respect des prix des produits réglementés ou subventionnés sur le marché nigérien, cas du gaz domestique et du charbon minéral ». C'est dans une présentation de Alassane Kouzi Mahamadou. Bonne réception.